Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Aujourd'hui, je suis au studio 411 et je suis avec l'artiste Scaro qui propose son exposition personnelle. Salut.
Bonjour à tous.
On a beau être diffusé après le vernissage. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que je suis avec Scaro au studio 411 et c'est le jour du vernissage. Donc, on est en plein accrochage, enfin, dans les petites finitions. Et on va revenir un petit peu comme toujours sur le parcours de l'artiste, ses influences et puis on parlera de cette exposition personnelle. Présente-toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Raconte-nous un peu. Ta petite personne.
Alors, je suis Scaro, Oscar Mallard. Je suis artiste peintre et je fais de la peinture depuis environ une vingtaine d'années.
Ok.
J'ai commencé par le graffiti quand j'étais jeune, enfin jeune, à l'adolescence, tout ça,
ouais.
Avec mon frère et des amis. En général, on pratiquait ça dans les terrains vagues. Mm-hmm. Chez nous, je suis originaire du Havre et en fait, il y avait beaucoup de
friches,
d'entrepôts d'armateurs, okay. Dans ce genre d'anciens trucs avec des plafonds énormes. Mm-hmm. Et tout, quoi. Donc, on a commencé en faisant du graffiti dans ce genre de lieu.
Ok. Et du graffiti, après, tu t'as découlé vers autre chose, vers ce que tu fais aujourd'hui. Quel a été ton cheminement, du coup, entre le graffiti
En général, avec Arthur, mon frère, dès qu'on a commencé le graffiti, en fait, on a très vite aimé le côté composition et mixer les couleurs entre elles, ce genre de choses, en fait, mm-hmm. avoir une cohérence sur la fresque. Donc, on est assez rapidement en fait, venu aux toiles, au travail sur toile.
Ok. Mais toujours avec du lettrage,
c'est devenu de moins en moins graffiti, okay. Et de plus en plus inspiré de la peinture classique.
D'accord.
Ce genre de codes comme les drapés, les chairs, ce genre de, le travail de la lumière sur la peau, ce genre de choses.
Ok.
Donc ouais, on est vite venu au travail sur toile. Et de fil en aiguille, après on a transposé le travail sur toile sur des grands murs.
C'est marrant ce cheminement parce que des artistes que j'ai pu interviewer, souvent sont issus du graffiti et c'est le côté justement espace public qui a fait qu'après ils ont développé un autre univers pour faire continuer dans l'espace public, faire des fresques avec un autre style et après la toile. Mais toi du coup il y a le graffiti, la toile et après t'es revenu sur le mur en fait.
Alors il y a un autre point aussi, c'est que je ne me suis jamais considéré vraiment comme un graffeur.
Okay.
Parce que je ne peignais pas dans la rue, je ne faisais pas de vandale.
D'accord.
Je ne faisais pas le vrai travail de graffiti artiste, en fait, qui est vraiment de l'illégalité mm-hmm. dans la rue. Et de mettre son nom un peu partout, c'est le principe, quoi.
Mm-hmm.
Moi, j'étais plus justement dans les terrains vagues, les entrepôts abandonnés. Par exemple, nous, notre journée de graffiti, on venait avec des merguez, on faisait un barbecue.
Ok.
C'était plus le côté
l'ambiance,
fun entre potes, ouais. En fait.
Ok.
Donc, il n'y a jamais eu ce côté adrénaline du graffiti qui est plus purement lié au graffiti.
Ouais. La peur de se faire choper.
C'est ça, ouais.
De faire des trains, etc.
J'en ai fait un petit peu. Hein,
mais ah, pas... quand même.
Oui, quand même.
et donc, comment t'es venu... Enfin, alors, tu parlais de peinture classique. Ça a vraiment été ton inspiration de... Enfin, quand je vois ce que tu fais, alors effectivement, il y a beaucoup de chair, des éléments végétaux, tout ça. On retrouve quand même des marqueurs un peu des natures mortes, etc. Enfin, ça a vraiment été tes influences, du coup.
Bah, je pense que ça m'a aidé à progresser aussi, parce que je n'ai pas de formation académique, on va mm-hmm. dire. Donc le fait de regarder beaucoup la peinture classique et d'essayer de récupérer les codes de la peinture classique en les adaptant un petit peu quand même avec du graffiti, et du post-graffitisme, on va dire. Mais en gros, je pense que ça m'a toujours attiré aussi, tu vois, les sujets assez classiques, et c'est ce qu'il y a de plus noble, on va dire, dans la peinture. La peinture à l'huile classique de Vermeer, ouais. Tout ça, c'est à mes yeux ce qu'il y a de plus noble.
Je partage. et comment t'as opéré cette transposition, enfin, comment t'en es arrivé à réaliser de la fresque après et les compositions que tu fais sur toi, là, à les faire voilà, en grand sur des façades Quel a été le point de départ, du moins
Bah, il faut toujours en faire une en premier.
Ouais.
il y a toujours la première qui fait un petit peu peur. Après, c'est des techniques assez classiques de reproduction pour reproduire quelque chose de format papier ou de petite taille sur un grand support. C'est des techniques assez classiques, justement, de la peinture ancienne, du type les quadrillages, ce genre de choses, en fait.
Ok. Ah ouais, donc même sur du mur, comme ça, t'as gardé quand même les codes, des codes hyper académiques, en fait, finalement, et hyper classiques. Ouais. Et de fil en aiguille, t'as réussi, en fait, à montrer ce que tu faisais et à en faire ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, tu vis quand même beaucoup de la fresque.
Ouais, je vis plus de la fresque que du travail en exposition.
En atelier, ouais.
C'est vraiment deux parties différentes du côté artistique, en fait. C'est, en général, la période estivale, elle est beaucoup axée sur les fresques et les festivals, ce genre de choses. Donc, on voyage beaucoup et tout. C'est cool à cette période.
Et oui.
Et la période hivernale, c'est plus justement atelier, à travailler sur toile et préparer d'autres projets, bien sûr.
Mm-hmm.
Ouais.
Et tu as, du coup...
Mais ta question, c'était quoi?
C'est comment t'es arrivé sur donc, la toile pour expérimenter, travailler la composition, etc. Comment tu t'es dit à un moment donné, vas-y, j'ai envie de retourner, en fait, j'ai envie d'aller dans la rue et de montrer ce que je fais à la maison, en atelier, le montrer en grand comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, dans ta tête?
Je pense que ça a été grâce aux opportunités, vraiment.
Ok.
Après, j'aurais pu continuer à peindre toute ma vie dans les terrains vagues à un moment donné et faire des grandes fresques dans ces terrains vagues et ça n'aurait été pas forcément vu.
Mm.
Donc je pense que ça s'est lié vraiment aux opportunités
qui se sont présentées.
Et propositions.
Quoi.
Ouais.
Okay. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu continues donc la pratique en atelier puisque là tu proposes une expo et tu nourris encore la fresque dans l'espace public. Enfin, tu continues. C'est quelque chose que tu t'as envie de continuer à faire
Ah oui, à fond, j'adore ça, moi. Je m'arrêterai jamais.
C'est quoi justement qui t'anime là-dedans, outre le fait que tu peux le montrer au plus grand nombre
Alors, il y a un truc qui est vraiment cool avec la peinture en extérieur, c'est l'interaction avec les gens, qu'il n'y a pas dans l'atelier. Donc, en fait, en été, on est beaucoup plus sociable, on va dire.
Le temps s'y prête en général.
Mais oui, ça, c'est trop cool de pouvoir parler avec les gens, d'échanger, et même aussi que les gens se parlent entre eux. Parce que des fois, il y a des gens qui se croisent tous les jours et qui, en fait, ne se parlent pas. Et la création de cette fresque-là, elle est à l'origine de 20 ans de non-discussion qui se réalisent d'un coup. Quoi.
Ouais, enfin, ouais. Tu remarques que les gens se retrouvent, en fait.
Ouais, complètement. Ouais. Et il y a les commentaires négatifs, les commentaires positifs.
Forcément.
Les gens parlent entre eux.
T'as déjà eu des réactions un peu, un peu fortes comme
ça? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Mais, en général, en expliquant les choses, les gens ils comprennent très rapidement. Par exemple, souvent, quand je réalise des fresques en extérieur, tout ça, toute la partie esquisse, les gens ils comprennent pas ce que ça va être.
Ok.
Ils voient des traits, des machins. Pour eux, c'est fini, alors que ça fait deux jours que je viens d'arriver, tu vois.
Ouais.
Je leur explique, je leur fais, mais venez tous les jours, vous allez voir que ça va se remplir petit à petit, les couleurs vont apparaître et tout. Là, c'est que le début.
Et oui, le tracé, c'est vrai que si tu passes au début, c'est assez, c'est assez abstrait, quoi. Dans ton univers, je vois que les compositions... Alors oui, moi, ça m'a rappelé effectivement le côté nature morte, etc. En plus, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Le travail de la lumière, les compos, tout ça. Je vois quand même que c'est assez déstructuré un peu, finalement. On voit des chairs, on voit des mains, on voit des éléments végétaux. Quel a été ton cheminement pour arriver à ce style-là, en fait? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait venir à cette composition propre à toi, pour le coup?
Je pense que mon style, il est vraiment lié quand même au graffiti. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, cette déstructuration des éléments et tout, ça, c'est très propre au graffiti et au lettrage, par exemple, où tout est déstructuré. Une lettre, par exemple, il y a 14 milliards de façons de la déstructurer, de la changer. Donc, effectivement, ça, c'est des codes qui viennent du graffiti instinctivement, on va dire. Je les ai pas cherchés, j'ai pas cherché à les cultiver.
Non, mais c'est quelque chose qui t'a plu dès le départ, peut-être.
Ouais, je pense qu'instinctivement, en fait, ça s'est croisé avec ce classicisme et le travail de drapé, de chair, tout ça. Mm-hmm. Et figuratif, qui est très important aussi.
Oui. Et alors, je sais que tu es en duo souvent avec Rature, mais du coup, est-ce que c'est ton frère?
C'est mon frère.
Ah, ok, parce que comme tu as dit Arthur tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est son frère. Enfin,
c'est mon frère.
Ok, d'accord. Et comment c'est venu? Enfin, vous êtes jeune déjà, tu disais, donc dans les terrains, vous étiez ensemble. Comment vous vous êtes lancé? C'était naturel de faire un binôme comme ça et de travailler sur les fresques ensemble, ou comment ça vous est venu?
Depuis toujours, on a toujours travaillé ensemble, en fait, à nos débuts. On a commencé comme pas mal de graffeurs, je pense, en faisant des chambres d'enfants, des salons, ce genre de choses. Donc ça, on les faisait à deux.
Okay.
Après, on a commencé à avoir des plus gros contrats avec des entreprises, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, on le faisait à deux toujours. Donc en fait, on a toujours progressé à deux.
Okay.
Après, Arthur, lui, il est parti à San Francisco. Mm-hmm. Et moi, je suis resté, j'étais en Belgique à cette époque. Donc en fait, on a progressé chacun de notre côté en se challengeant, on va dire, l'un à l'autre, en s'envoyant des photos, des murs qu'on faisait, tout ça, machin. Et du coup, en fait, on a toujours progressé comme ça, un peu séparés, mais en binôme.
Ouais, ouais.
Parce qu'on s'appelait tout le temps, on aime bien se mettre des challenges et s'apprendre des nouvelles techniques, par exemple, ce genre de choses, quoi. Et du coup, en fait, moi, je l'ai rejoint une année à San Francisco. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a un galeriste qui a aimé notre travail et qui a, on va dire, un peu misé sur nous, un peu, quoi. Et du coup, ça s'est super bien passé. C'est toujours notre galeriste.
D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous continuez à travailler ensemble quand...
On travaille toujours ensemble quand l'opportunité se présente, quand on a l'opportunité. Et on travaille aussi séparément, en fait, vu la distance.
Hein, parce que lui, toujours, du coup, aux États-Unis, c'est ça?
Lui, maintenant, il est à Vancouver.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ok. Oui, donc il faut vraiment que l'opportunité se présente.
Ouais, bah, par exemple, je suis allé à Vancouver l'été dernier pour réaliser une grosse fresque là-bas.
Ok. Ouais. D'accord. Intéressant. Je suis contente de savoir que c'est ton frère et de savoir qui est Rature.
C'est le frère de Scaro.
C'est le frère de Scaro, voilà, tout simplement. avant de basculer sur l'expo qui nous intéresse, on va faire une petite pause musicale. On va revenir juste après. Du coup, tu nous as proposé un morceau de Russell Gunn qui s'appelle Épistrophie. Voilà, on écoute ça et on revient juste après.
Prepare it.
On est de retour avec Scaro au 411. Alors déjà, pourquoi ce morceau? Pourquoi Russell Gunn? Pourquoi Épistrophie?
Waouh. Pourquoi?
Jamais demandé, parce que c'est pour ma culture. Après, je fais une playlist de tous les morceaux des artistes.
Je vais la faire courte.
Vas-y.
Je travaillais dans un magasin de musique. Je vendais du jazz, de la musique classique.
Ok.
Et c'était un CD que j'aimais beaucoup.
Tout simplement.
Ouais.
Ok, bon, moi très bien. C'est encore un morceau très différent de ce que d'autres artistes ont pu me proposer. Donc vous avez vraiment des goûts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Mais je suis très hip-hop et tout. J'aime toute la musique en général.
Donc cette expo à Montpellier, est-ce que t'as déjà exposé à Montpellier?
Par non, le passé? C'est la première fois.
C'est la première fois, ouais. Ok. Pourquoi le 411 du coup?
Par opportunité, en fait, c'est Figure, le collectif Figure, qui m'a proposé de faire une expo ici. Mm-hmm. Et j'ai trouvé le lieu super bien, donc je me suis dit pourquoi pas.
Le lieu est très chouette, effectivement. Parlons un petit peu de cette exposition, alors qui n'a pas de titre, et nos auditeurs viendront, ils comprendront peut-être pourquoi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bouts de toi, j'ai l'impression. Explique-nous un petit peu, parce que moi j'ai eu la chance de voir, alors c'est pas encore ouvert au public, mais j'ai la chance de voir et des œuvres. Auquel je m'attendais, puisque c'est effectivement dans le style de ce que je vois un petit peu sur les réseaux. Mais j'ai vu des choses différentes, et du volume aussi. Quelle a été la démarche dans cette exposition?
Avant tout, me faire plaisir, déjà.
Ça, c'est cool, plutôt.
Alors, en fait, du coup, l'expo, elle a trois axes principaux, on va dire. Donc, il y a l'axe de la peinture à l'huile classique, et vraiment mon travail sur toile. Mm-hmm. Qui est représenté par deux séries différentes. Donc il y a une série qui a été réalisée il y a 4 ans, mm-hmm. Sur les agressions policières et les arrestations policières.
D'accord.
Donc en fait, cette série-là, je l'avais réalisée à l'époque en fait, où il y avait cette problématique, ça revenait dans les débats, c'était le fait que la police n'ait pas le droit d'être filmée, mm-hmm. ou je sais plus si tu te souviens.
Oui, je vois tout à fait.
Et du coup, ça m'avait un peu choqué, et du coup, j'avais décidé de faire cette série, en fait. Et le fait de la montrer à Montpellier, c'est d'autant plus important pour moi, parce que mon petit frère a subi une agression policière il y a de ça 14 ans.
D'accord.
Il a perdu un œil lors d'un tir de flashball, en fait.
Ah.
Voilà.
Ok.
Donc ça me tenait aussi à cœur de la montrer à Montpellier, mm-hmm. là où ça s'est passé.
Ok. Voilà,
c'est pour le côté personnel.
Ok, ok.
Ensuite, le deuxième axe, c'est plus sur des céramiques, des. On retrouve plus le travail justement lié au graffiti, tout ça. Donc ça va être des céramiques avec des nymphes, des sortes de nymphes. À la base, c'est des statues grecques.
Ok.
Que j'ai un peu mixées, mélangées, glitchées. Enfin, voilà.
Quel est le lien avec le graffiti, du coup?
Justement, ce côté déstructuré. Okay. Et décomposé un peu de la chose. Mm-hmm. Et du coup, ensuite, il y a une partie que je présente, c'est des dessins au crayon.
Ouais.
Donc, très minimaliste et très simple. C'est un exercice que je voulais faire depuis longtemps, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai pas de formation académique. Donc, j'aime bien apprendre les choses. Par exemple, le dessin crayon, je connaissais pas. Et en fait, il y a plein de nouvelles problématiques.
Le support, l'outil, déjà,
c'est
qui
totalement
change,
différent.
Qui change le trait, en fait, finalement.
Et la façon de remplir aussi. Mm-hmm. Par exemple, je me suis rendu compte que c'est très difficile d'obtenir un noir super foncé au crayon.
Ça va rester gris foncé, quoi.
Surtout avec un papier granulé ou ce genre de choses. Donc, par exemple, ça, c'est des petits défis, ce genre de trucs, par exemple.
C'est marrant, quand même, qu'au bout de 20 ans, du coup, d'expérience, tu disais, de carrière, je sais pas comment on peut le dire, t'arrives à trouver encore des façons de te challenger.
Ça, je pense que c'est ultra important, parce que sinon on se ferait chier. moi j'aime beaucoup changer de sujet, changer de thème. Par exemple, en ce moment là, j'ai une fascination un peu pour les reflets de la lumière, mm-hmm. les reflets de l'eau, ce genre de choses. J'ai pas encore travaillé dessus, tu vois.
Ouais.
Mais ça me travaille.
Ça te travaille, ouais.
Ouais. Du coup, je pourrais pas m'empêcher de faire tout le temps quelque chose de différent, c'est important.
Et le travail, parce que je m'y attendais pas du tout, donc ce volume dont tu parlais, les céramiques, est-ce que c'est quelque chose que ça, tu l'as exploré là pour cette expo, ou c'est quelque chose que déjà tu...
Alors ça, tu parles des petites sculptures en céramique, c'est ça? Donc ouais, ça c'est la dernière facette un peu de l'expo. C'est des petites sculptures en fait en ciment et en technique mixte. J'expliquerai pas forcément la technique.
Mais ça t'appartient.
Du coup, en fait, ça fait assez longtemps que j'essaie de faire du volume. Et j'ai déjà eu l'occasion, notamment au Havre, de faire une expo en gigantesque avec des grands volumes, ce genre de choses. À l'époque, c'était du plastique que j'avais froissé, modelé. Pour en faire des feuilles de papier qui volaient dans un environnement gigantesque. Mmh. Et du coup, en fait, ça, c'est un travail qui est assez récurrent, mais j'arrivais pas à le transposer en petit et à le relier aussi au travail de chair et de tout ça.
Okay.
Donc, ce qui est présenté là à l'expo, c'est vraiment des expérimentations autour de ce sujet-là. Mmh. Et des petits monotypes, on va dire.
Ok. Ouais, un échantillon de ce que tu as fait en grand. Et le volume, c'est quelque chose que tu continues d'explorer avec d'autres matériaux?
J'adorerais en fait, mais il faut de l'espace et il faut des opportunités. Mais oui, j'adorerais vraiment passer au volume aussi à un moment.
J'en prends bonne note parce que nous, chez Line Up, on cherche des artistes qui font du volume par exemple. Et je ne savais pas que c'était le cas pour toi, c'est intéressant. Donc cette expo, du coup, c'est des bouts de toi, un peu, de ta carrière, de ton expérience. On a vraiment l'impression que tu racontes une histoire. Les œuvres de violence policière, je ne m'attendais pas du tout à voir ça, parce que c'est vraiment... c'est particulier quand on te suit un petit peu. On ne s'attend pas à avoir une variété comme ça, quoi.
Alors aussi, il y a un point qui est vraiment important entre le travail sur toile et le travail mural. C'est que le travail sur toile est peut-être un peu plus personnel. Mmh. Au niveau des sujets, je peux me permettre beaucoup plus de choses que sur le travail mural. On est souvent lié à une contrainte environnementale qui est importante. Je vais pas faire un flic juste à côté d'une école.
Non,
de belle nature, ou je sais pas, tu vois. Donc j'essaie toujours d'adapter le travail mural en extérieur vraiment à l'environnement et aux gens qui y habitent. Parce que c'est important pour eux.
C'est les premiers bénéficiaires, donc il faut qu'ils soient d'accord aussi.
Moi, une fois que la fresque est terminée, je m'en vais.
C'est ça, mais eux vont devoir vivre avec, quoi. Et du coup, parce que tu parles souvent des gens et donc du public qu'il y a autour quand tu fais des fresques comme ça. La médiation, c'est quelque chose que tu fais avec les habitants dans des projets? Est-ce que tu as eu l'occasion d'animer des temps comme ça de rencontres, ou quelle est la place en tout cas
Tu veux venir plus en mode atelier?
Ouais, alors ça peut être, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être temps de rencontre où tu te présentes, où tu vas parler du projet à venir, ou des ateliers de pratique.
La médiation est naturelle, c'est tous les jours en fait, tous les jours je discute avec les gens,
Tu prends le temps de le faire quand t'es sur le mur, quoi.
Oui, oui. Après, il y a des moments où je suis à 15 mètres de haut.
C'est compliqué.
Forcément, des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent « Vous pouvez venir ?» Non, je suis en train de travailler, là. dès que je suis en bas, avec plaisir, on discute.
Tu prends le temps
J'ai aussi pas mal de groupes scolaires, tout ça, en général, qui passent sur les fresques.
Ouais.
Donc, c'est cool.
Et du coup, tu leur... je sais pas s'ils préparent des questions, des trucs comme ça, mais j'imagine que t'es dans un échange.
Oui, tout le temps, les maîtresses, elles travaillent le truc. Souvent ils ont des questions très pertinentes, les gamins.
Mais les enfants, j'ai la possibilité des fois d'animer des visites comme ça avec les gamins, et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont sans filet en fait.
Ouais, bien sûr.
Ils vont te poser des questions c'est pas du tout réfléchi, si ça sort comme ça.
Par exemple, tu vois, on parlait de l'esquisse tout à l'heure, les gamins ils comprennent 10 fois mieux.
Ah!
En fait. Et direct, ils sont là, ah là, il y a un poisson, ah là, il y a un bateau, ah là, il y a un...
Ok.
Alors que des fois, les gens, ils sont là, c'est un dragon, c'est, tu vois, une tortue. Non, pas du tout, c'est un scooter. Donc, les gamins, ils ont cet œil, ils arrivent à voir 10 fois plus rapidement, en fait, ce qui est représenté, souvent.
Marrant.
Ouais.
On arrive à la fin, tout doucement, de cette interview. J'ai envie de dire aux gens de venir voir ton expo. Jusqu'à quand on peut la voir, cette exposition?
Je crois que c'est jusqu'au 13 juillet.
Ok, donc on a le temps de, oui. de venir. Et par la même occasion, de venir au 411, qui est un super lieu à Montpellier, qui doit être découvert ou redécouvert par, par tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de cette interview. Bon, on est la semaine prochaine, mais là, aujourd'hui, c'est le vernissage. Donc, je te souhaite un très bon vernissage.
Merci.
Et puis, au plaisir de te revoir à Montpellier.
Et merci à toi.
Et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan, que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.